Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
François de Closet, toujours plus. Toujours plus, essai polémique de François de Closet, présente une critique sévère de la société française et de ce que l'auteur nomme le néocorporatisme. L'ouvrage est paru en 1982, soit un an après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Extrait du chapitre 12, La règle du hors-jeu. Les Français vivent sur deux images de leur pays, deux références héritées du 19e siècle, soit une société de 54 millions d'individus entretenue dans une agitation perpétuelle par la compétition généralisée, soit une société stratifiée en classes qui lutte les unes contre les autres en d'interminables batailles frontales. Deux images fausses. Plutôt que le Far West fabuleux et ses cow-boys galopant dans la prairie, ou bien la Grande Guerre et ses poilus enlisés dans les tranchées, la France contemporaine, dans ses aspects économiques et sociaux, évoque la société médiévale. On y trouve la réplique des grandes provinces unies derrière leurs seigneurs, des communautés bourgeoises, maîtresses des villes franches, des barons retranchés dans leurs citadelles inexpugnables, des corporations marchandes défendant leurs privilèges, des riches banquiers tirant les ficelles, des chanoines prospérant sur le revenu de leurs abbayes. Perdus dans les campagnes à l'abandon, le vain peuple s'efforce toujours de survivre parmi les combats, les épidémies et les famines. Tantôt rançonné, tantôt embrigadé, il cherche éperdument une protection dans un monde imprévisible et menaçant. France des citadelles et France des terrains vagues, France des ordres et France du désordre, France des gagnants et France des perdants, tel est le dédoublement que provoque la crise dans le corps social. La vraie France est duale. Les incertitudes économiques précipitent cette évolution. En toute hâte, de la basse à la haute privilégiature, on fortifie qui son modeste village, qui son riche palais. Les ponts-levis se relèvent, les portes se ferment. Tant pis pour ceux qui resteront dehors. Ce mouvement est si conforme à l'histoire et à la tradition française qu'il paraît plus involutif qu'évolutif. Un retour aux sources en quelque sorte, car la greffe libérale n'a jamais vraiment pris sur la mentalité française. Au XIXe siècle, lorsque triomphe la corporation des riches, elle ne sert qu'à légitimer l'impérialisme bourgeois au détriment de la noblesse et du prolétariat. Pendant la première moitié du XXe siècle, elle perd de sa vigueur. La nation se coupe du marché, se fige dans le sous-développement et se résigne au déclin. Blocage, peur de l'avenir. L'épopée des Trente Glorieuses a pu faire naître l'illusion que les Français s'étaient convertis au capitalisme libéral. Le peuple sédentaire s'était mis en marche. Dans les campagnes et dans les villes, dans les mots et dans les gestes, il manifestait un goût nouveau du changement, du risque, de l'entreprise, de la compétition. Mais le conformisme n'est pas le transformisme. Le changement venait du dehors et non du dedans. Il bouleversait la société sans convertir les esprits. Tous les pays occidentaux, la Grande-Bretagne mise à part, connurent à la même époque une même croissance, preuve que le courant devait bien aider les rameurs et que la complicité des flots insufflait aux équipages l'exaltation des grandes régates. Le libéralisme des années 50-60 était pourtant trompeur. Il assurait à la fois le plein emploi et la croissance du niveau de vie pour tous. Qui ne se serait accommodé d'un tel régime ? D'autant que les imprécateurs de la gauche, qui ont dénoncé les vices inhérents, chômage et paupérisation, donnaient à croire qu'on était bien là dans l'économie de marché pure et dure. Ainsi, l'opinion, confondant le meilleur avec le pire, était-elle fondée à s'y rallier sans trop de réticence ? Dans l'histoire du libéralisme, cette époque constitue une anomalie. Nous le savons depuis que s'est opéré le retour à la normale. La règle, c'est la menace sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Au moment où tombait le masque souriant, messieurs Barre et Monory entreprirent de prêcher le credo libéral. Bien évidemment, les Français rejetèrent des principes auxquels ils avaient pu se conformer en d'heureuses circonstances. Mais les illusions perdues sur l'économie de marché ne pouvaient se reporter sur l'économie planifiée. Dans leur esprit, la notion de pénurie est définitivement associée à celle de communisme, et de cela non plus, ils ne veulent pas. Entre ces deux modèles également refusés, la recette traditionnelle venue du fond des âges, le corporatisme, a refait surface. Dans sa version moderne, c'est une organisation qui, avec l'aide de l'État, apporte à petite échelle ce qu'il faut de liberté, ce qu'il faut de sécurité, ce qu'il faut de bien-être pour satisfaire les secrètes aspirations de l'âme française. Solution idéale qui, malheureusement, a un double défaut. D'une part, cette organisation de tissu social en place forte laisse flotter dans les espaces vides toute une population à la dérive qui supporte le poids des ajustements inévitables. D'autre part, les remparts corporatistes ne suffisent pas à se protéger des grandes mutations technico-économiques. C'est alors que les demandes d'assistance se multiplient. Or, comment échapper aux invasions sans fermer les frontières et entretenir la croissance en se privant des forces qui la vivifient ? Cruelle alternative, il faut s'ouvrir pour rester riche, se fermer pour rester tranquille. Il y a 50 ans, l'économie française pouvait vivoter à l'ombre de ses murailles protectionnistes, d'autant mieux que l'empire colonial étendait suffisamment l'espace clos. Mais l'état présent de prospérité, par l'ampleur des importations qu'il suppose, par le niveau de productivité qu'il exige, ne peut se maintenir à l'écart du commerce mondial. La France se trouve condamnée à l'ouverture, donc aux turbulences, donc aux potions calmantes. Concilier le tout est l'art infiniment délicat de coupler l'économique et le social.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.